Voilà, nous sommes dans le mois de décembre. Et habituellement, dans le mois de décembre, on aime bien regarder, reconsidérer un peu les passages de la Bible qui traitent de la venue de Jésus-Christ, de sa naissance. Et je propose de faire une petite méditation, je veux dire, un partage de quelques pensées sur l'évangile, à partir de l'évangile de Matthieu. Vous savez que tout au long de son évangile, Matthieu, il fait appel à l'Ancien Testament. Il écrit à des Juifs et la lettre est parsemée d'appels, on pourrait dire, à l'Ancien Testament, des citations de l'Ancien Testament. On trouve souvent, par exemple, l'expression « afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, par les prophètes, etc. » Et donc, il montre que Jésus, le Jésus qu'il présente, on pourrait dire, n'est pas un Jésus qui a été formé dans son imagination, mais que qu'il est ancré dans l'histoire, il a été annoncé depuis bien longtemps. Et c'est pour cela qu'il prouve que à ces Juifs qui sont soucieux que les choses s'accomplissent telles qu'elles sont écrites dans l'Écriture, bien que Jésus est vraiment l'accomplissement de tout ce qui a été écrit dans la loi et dans les prophètes. Tout ce qui le concerne vient de l'Écriture. Et c'est ce que nous lisons quand nous lisons l'évangile de Matthieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la pensée humaine, ce n'est pas quelque chose qui vient de Matthieu, c'est quelque chose qui vient de l'Écriture. La manière de sa naissance même, il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, puis ensuite il exprime les choses et il dit que la manière avec laquelle c'est arrivé, la naissance virginale est une conception miraculeuse, est un accomplissement de l'Écriture. Et puis la ville de sa naissance aussi, et tous les événements qui entourent sa naissance, bien, il les présente comme étant des accomplissements de ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Alors, on trouve plusieurs choses, par exemple en Matthieu 1, 23, si vous regardez Matthieu 1, 23, il dit « Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Mais il dit au verset 22, pardon, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et de quel prophète il s'agit ici? Le prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 7. D'accord, on trouve ça, chapitre 7. Et puis après, en Matthieu, chapitre 2 et au verset 6 aussi, il dit, et toi, donc Hérode envoie des scribes pour savoir, enfin, interroge pour savoir où devait naître le Messie. Et puis il dit, verset 6, il doit naître à Bethléem parce que ce qui a été écrit voici ce qui a été écrit par le prophète, verset 5, et puis verset 6, et toi, Bethléem, Éphrata, oh non, il n'est pas Éphrata, ça c'est ailleurs que c'est écrit, et toi, Bethléem, terre de Juda. Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Et là, c'est quelle citation, ça, ici? De Michée 5. Et puis, ensuite, on en trouve encore un autre. Tout ça, c'est autour de la naissance de Jésus, au chapitre 2, au verset 15. Lorsque les mages reviennent, ils ne vont pas voir Hérode comme ils le voulaient. Mais ils partent par un autre chemin, divinement averti, ils partent par un autre chemin. Et puis, il est dit que Joseph a l'apparition d'un ange qui lui dit qu'il doit fuir en Égypte. Et au verset 15, il dit, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. De quel prophète s'agit-il ici? Le prophète Osée. Ah, vous êtes fort, hein? Vous avez des petites notes dans votre Bible, hein? C'est bien ça. C'est bien. Le prophète Osée, d'accord? Et puis, il y en a quand même une autre, hein? Une autre ici, au verset 18, verset 17, quand il y a eu le massacre de tous les enfants de 2 ans et de plus, eh bien, il est dit, alors s'accomplit, verset 17, ce qui a été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Alors, c'est une citation de quel prophète? De Jérémie. Il le dit lui-même, hein, ici dans le texte. C'est écrit, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie. Donc, la Bible même le dit ici. Et puis, il y en a peut-être une encore, hein, une dernière. Une dernière. Verset 22, il dit, mais ayant appris qu'Archélaüs régnait encore dans la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre, et Joseph craint de se rendre encore et de revenir d'Égypte. Eh bien, divinement averti, en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Et là, c'est quel prophète? Isaïe? Ah là, il dit les prophètes. Hein? Cette fois-ci, partout ailleurs, c'était le prophète. Et ici, c'est les prophètes. C'est pas très sûr, hein? Où est-ce que c'est, je crois, où est-ce que c'est. Cité un peu, hein, je n'ai pas regardé beaucoup, mais peut-être Ésaïe 11, hein, on peut penser que ça fait peut-être allusion à Ésaïe 11, 1, quelqu'un a ça? Ouais, c'est pas. Ouais, dans ma Bible, il dit peut-être une allusion, le rejeton, le rameau. C'est peut-être la racine du mot Nazareth qui fait penser à ça, en tout cas. Mais c'est pas clair, on ne sait pas trop. Hein. C'est pas trop. Voilà, donc on ne va pas spéculer là-dessus. Alors, ce que je voudrais faire, c'est qu'on considère, si Matthieu fait à chaque fois un appel à l'Ancien Testament, c'est intéressant de s'arrêter peut-être sur une ou deux citations et puis de voir ce qu'on peut avoir comme enseignement. On ne va pas faire quelque chose de, comment je vais dire, d'exégétique, mais plus quelles leçons on peut tirer de ces citations-là. Toutes sont là pour montrer que Jésus-Christ, il est ancré dans l'Écriture et que sa venue accomplit parfaitement les Écritures. Mais on peut aussi voir hein, d'autres choses qui peuvent être utiles pour notre enseignement là-dedans. Ce soir, je propose de s'intéresser à la citation de deux. Verset Matthieu 2, versets 3 et 6, lorsque les mages viennent voir à Jérusalem, viennent pour adorer Jésus ici. Et donc on relit ça dans Matthieu chapitre 2, verset 1, il est dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, du temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Et ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera mon peuple. Et donc on l'a dit, c'est une citation que Matthieu fait de Michée. Alors, ici, c'est pas Matthieu simplement qui dit, afin que s'accomplisse ce qui a été écrit par les prophètes, hein, par le prophète. On voit, c'est un peu les scribes, les scribes du peuple qui disent qu'il doit naître à Bethléem, car voici, il est écrit par le prophète. On a l'impression ici que c'est eux-mêmes qui citent cela. Hein. Non pas pour dire qu'il est né et donc c'est l'accomplissement, mais pour dire que s'il devait naître, ben c'est tablété, parce qu'il est écrit que c'est tablété. Mais sous-entendu, s'il naît, il devrait accomplir au moins cette prophétie qui vient de Bethléem. Alors, c'est intéressant de considérer cela. Ce qu'on veut faire ici, c'est de voir qu'est-ce que cela nous enseigne. Bethléem, hein, donc là on voit qu'il est question de Bethléem. Hein. On pourrait dire c'est une citation concernant Jésus, c'est une citation sur la ville où il devait naître. Et donc ce que Matthieu montre ici, c'est que il y a un accomplissement concernant la prophétie qui précisait dans quelle ville Jésus devait naître. On a vu d'autres prophéties qui se sont accomplies, de quelle manière il devait naître, hein, dans le premier chapitre. On a vu aussi de quelle manière il devait revenir, comment il est revenu, par le fait que Dieu l'a appelé hors d'Égypte. On a vu ces choses-là. Donc ici, Matthieu souligne le fait que Jésus, il est vraiment le Messie qui devait venir parce qu'il est sorti de Bethléem, comme les prophètes l'avaient dit. Alors, la citation, la prophétie de Michée, elle date, vous savez, d'à peu près combien? 700 ans. Il était contemporain, je pense, d'Ésaïe, un peu, donc ça doit être 700 ans avant la naissance de Jésus. Et les scribes, là, citent ce que Michée dit. Et Michée dit que Bethléem était une petite, attendez, on va lire dans Michée 5 quand même, pour vous dire exactement comment il le dit. Hein. Michée 5, donc Michée, c'est quoi? C'est un grand petit prophète. Petit prophète, il y en a combien? 12. Hein. 12, 5 grands et 12 petits prophètes, d'accord? Donc c'est. Michée, c'est après Jonas. Donc, et trois versets. Alors, chapitre. Alors, ça dépend comment c'est dans votre Bible. Il y a des Bibles où le dernier verset du chapitre 14 est dans le chapitre 5. Puis d'autres où c'est. Donc, soit Michée 5.1, soit Michée 5.2, ça dépend. Moi, j'ai Michée 5.1. Et trois, Bethléem, Éphrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira. Pour moi, celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Alors, qui est mis en évidence ici, que les scribes soulignent aussi, quand ils citent le passage, c'est le contraste qu'il y a entre on pourrait dire, la petitesse de la ville, hein, petite, et puis, Michée dit, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira, pour moi, mais. Les scribes disent ici dans Matthieu dit, tu n'es certes pas la moindre des principales villes de Juda. Donc, elle est à la fois petite et pas la moindre. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'ai intitulé la méditation Bethléem, petite mais pas la moindre. Hein. Pas insignifiante, ça veut dire ici. Alors, c'est une ville qui est petite, c'est vrai que c'est une petite bourgade, on pourrait presque dire plutôt un village qui était situé à une dizaine de kilomètres au sud de Jérusalem. Et c'est une toute petite ville, c'est pas Jérusalem. Et probablement, lorsque les mages viennent pour chercher un roi, évidemment, ce qui vient en premier à l'esprit, c'est pas Bethléem, c'est vraiment la grande, à l'époque, comme mettre ça dans le contexte, mais la ville royale. Alors, c'est une petite ville, on pourrait dire, mais c'est même pas une ville quand même qui est sans histoire. Et peut-être il y a quelques événements qui vous viennent à l'esprit concernant Bethléem, dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui vous viennent à l'esprit? Oui, ça c'est dans Ruth. Bethléem est donc on parle de Bethléem comme étant la maison du pain. Alors Bethléem, c'était la ville de Naomi et comment s'appelait son mari encore? Élimélec, c'est ça, non? Élimélec ou ça, Élimélec? Ouais, Élimélec, et puis ses deux fils qui sont partis à Moab, et puis après, voilà, et puis qui sont revenus. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu à Bethléem pour qu'ils partent? y a eu une famine, donc c'est une ville qui a connu une famine. Okay. Qu'est-ce que vous savez encore de Bethléem? David, hein? David est de Bethléem, d'accord? Parce que si on lit Luc, je crois que c'est dans Luc, hein, quand il y a le recensement qui est fait à la période, eh bien il est dit que Luc chapitre 2, je crois, et au verset 4, Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre dans la ville de David, appelée Bethléem. Donc c'est la ville de David. C'est pas seulement la ville qu'il a habitée, mais rappelez-vous, lorsque Samuel va pour oindre David, d'accord, il va trouver, comment il s'appelait le père de David? Isaïe. Il va trouver Isaïe, qui était un Bethléemite. Et Samuel, la Bible dit Samuel, 1 Samuel 16, je crois, Samuel est parti à Bethléem pour pouvoir oindre. Donc c'est aussi la ville donc, où a été oint David. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent concernant Bethléem? Bien, la Bible dit que c'est par exemple en Genèse 35, dès la première mention de Bethléem dans Genèse 35, où il dit qu'au moment de la mort de Rachel, de l'enterrement de Rachel, hein, c'est sur le chemin d'Éphrata qui est Bethléem que Rachel a été quoi, enterrée, est-il dit. Hein. Donc on a là une première mention. Il y a un épisode assez macabre qui concerne aussi, pas si vous vous souvenez, hein, c'est dans le livre des Juge avec cet homme qui était de la ville de Bethléem, hein, voilà, et qui a tué sa concubine, qu'il a découpée en 12 morceaux, et puis il l'a envoyée dans les tribus, hein, d'accord? Donc, on apprend que cette femme, elle était de Bethléem aussi, hein, cette femme était de Bethléem. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses encore? On a dit une ville qui était connue pour sa famine, l'histoire de Ruth. Et puis, ben, le massacre des enfants, hein, qu'on voit tout de suite dans le passage de Matthieu ici. Hein. Donc, c'est une ville qui est petite, mais bon, et ça, c'est quelques éléments, hein, on pourrait en citer d'autres. Hein. Il y avait un Lévite, là, qui était de Bethléem, d'accord, vous ne vous rappelez de ça, hein, et qui était devenu le prêtre dans une maison, c'était à Mika, non, je ne me rappelle plus où. Mika, ouais. Il était devenu le prêtre un peu particulier, etc. Donc, c'était aussi de Bethléem, tout ça. Donc, c'est une petite ville, mais pas sans histoire. Mais bien que petite, on pourrait dire qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette ville. Mais ce n'est pas pour ça que Matthieu dit qu'elle n'est pas la moindre des villes de Juda. C'est parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a donné aussi naissance au Messie, hein, celui qui dominera, celui qui sera le chef, le roi, et à la fois le berger, comme David l'a été. Hein. David était roi et berger, berger et roi, on pourrait dire dans ce sens-là. Et Jésus, lui, qui est le fils de David, né comme David à Bethléem, eh bien, sera aussi le roi par excellence. Et le berger par excellence. Quand on lit Ézéchiel chapitre 34, on voit tout ce qui est dit, tout ce que ce berger fera. Il va sortir de cette ville, il va gouverner, il va paître. Même la Bible dit à un moment donné, il paîtra avec une verge de fer. Hein. Il établira sa loi et il paîtra son peuple. Son règne s'étendra éternellement et puis il n'aura point de fin. Donc, c'est Bethléem qui va donner quelque part naissance à ce roi-là. Donc, ce que je voudrais qu'on souligne un petit peu, c'est quelques pensées sur ce qui fait l'importance donc de Bethléem. C'est pas Bethléem en elle-même, mais c'est la grandeur de celui qui vient de Bethléem, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ. Et on peut voir beaucoup de choses dans ce contraste-là, hein. Petite, mais pas la moindre. Et on pourrait citer plusieurs choses. On pourrait dire que Bethléem est petite d'entre les milliers de Juda, mais elle n'est pas la moindre parce qu'elle est le témoin de la providence de Dieu. Bethléem est le témoin de la providence de Dieu. On avait appris ceci, hein, qu'est-ce que la providence de Dieu? La providence de Dieu, consiste en ce qu'avec une suprême, on avait dit sainteté, sagesse et puissance, il préserve toutes ses créatures et il dirige toutes leurs actions. Et ce qu'on voit quand on parle de Bethléem, c'est ça, je crois. On voit ça aussi, le fait que Dieu dirige l'histoire. Il dirige les actions des hommes. Quand il dit « Trois, Bethléem, Ephrata, de trois sortira pour moi celui qui pètera hein, Israël, mon peuple », eh bien, cela, et quand cela s'est produit, cela témoigne vraiment de la providence de Dieu. Le récit de Noël que nous lisons souvent montre cette providence de Dieu. Voici une prophétie qui est écrite depuis 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et un roi, Jésus, le Messie, naîtrait de Bethléem. Okay. Et puis, voilà, comment est-ce que ça pourra se faire 700 ans plus tard? Eh bien, on voit ici qu'un empereur, 700 ans après que Michée ait écrit cela, un empereur, il est pris d'une soudaine envie de faire un recensement. Empereur romain, encore dans son palais, il dit, tiens, si je faisais un recensement, savoir, etc. Et puis, il met le souk dans tout son empire, on pourrait dire, hein, d'une certaine manière, parce qu'il met tout le monde en mouvement, que tout le monde doit aller se faire recenser dans sa ville natale. Il exige que les gens se déplacent dans leur ville de naissance. Alors Marie et Joseph, Joseph et Marie qui sont des croyants, eh bien, ils ne sont pas en train de bouder. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, on n'y va pas, moi. Et puis Joseph ne dit pas, écoute, voilà, on ne peut pas bouger. Marie, toi, tu ne peux pas bouger, tu es enceinte, etc. C'est quoi ces lois? C'est quoi ces gouvernements? Comme il nous arriverait peut-être rapidement de faire, surtout dans notre pays ici. Ils se plient et ils vont à Bethléem. Et c'est juste au moment où Marie doit accoucher, eh bien, qu'elle est en plein dans Bethléem. Elle n'est pas sur le chemin, elle n'est pas à Galilée. C'est au moment où elle arrive à Bethléem qu'elle donne naissance à Jésus. Et on pourrait dire ici que la prophétie qui a été écrite 700 ans plus tôt s'accomplit d'une manière, comment? Providentielle, mais toute ordinaire. Un roi, un empereur qui fait, et c'est ça la providence de Dieu, c'est pas quelque chose de forcément tout est spectaculaire, mais c'est dans le cours normal de la vie. Qu'est-ce plus normal? Un roi orgueilleux qui veut savoir combien est grand son empire, il ordonne un recensement. C'est sa pensée, son désir de le faire. Et puis il décide, parce qu'il est empereur, de déplacer tout le monde, mais personne ne rechigne, parce que c'est l'empereur. Qui c'est qui va dire, lever le poing contre l'empereur? Personne. Joseph, qui sont des chrétiens, et Marie, des chrétiens soumis, disent, bon, après tout, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller, on va y aller doucement, mais on va y aller quand même. Hein. Ils y vont, etc. Et puis Marie atteint son 9e mois, eh bien, elle donne naissance à Jésus. Tout ça paraît des plus ordinaires. C'est pas quelque chose, franchement, d'extraordinaire qu'il a. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que derrière tout cela, c'est Dieu qui agit et qui dirige toutes ses actions. Et donc, il aurait pu naître à Jérusalem, il aurait pu naître à Nazareth, en Galilée, etc. Mais Dieu a prévu, avait décrété que ce serait dans la petite ville de Bethléem. Eh bien, ça s'est passé dans cette petite ville de Bethléem. Et donc Bethléem est une petite ville, oui, elle n'est pas la moindre parce qu'elle montre vraiment, elle nous montre comment Dieu est un Dieu providentiel, comment la providence de Dieu agit. Et que ce qu'il a décrété, ce qu'il a dit, il l'accomplira au moindre détail. Après tout, naître à Bethléem, on pourrait dire, ou naître ailleurs, si Jésus était né, ça ne changerait pas grand-chose, on a presque envie de dire. Mais non, il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse exactement comme il a écrit, même si c'était une petite bourgade sans importance qu'il avait choisie pour que naisse le Messie, il fallait que ça s'accomplisse exactement de cette manière-là. Et donc ça c'est, je pense, une chose que nous montre ce petit cet appel hein, à l'écriture. Une deuxième chose aussi, c'est que Bethléem, elle est petite entre les milliers de Juda, bien sûr, elle n'est pas la moindre. Parce que Dieu utilise, ça montre que Dieu utilise les choses faibles du monde. Je crois que c'est le témoignage ici. Dire que Bethléem est petite entre les milliers de Juda, mais pas la moindre, c'est le témoignage que Dieu utilise les choses faibles du monde et celles qui ne sont pas. Pas Jérusalem, mais Bethléem. Naturellement, les cœurs vont à Jérusalem. Naturellement, les cœurs vont à Jérusalem, là où c'est plus logique de trouver un roi. Mais Dieu montre que lui, il choisit les choses faibles du monde. Et vous connaissez ce passage, hein, dans 1 Corinthiens 1, verset 26, où il est dit ceci, hein, je le lis. Hein, 1 Corinthiens 1, 26. Si quelqu'un l'a, 26 à 29, vous pouvez lire. Hein, 1 Corinthiens 1, 26. Je vais lire, je l'ai. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Et je crois que c'est ça qu'on peut voir ici. Même Dieu ne se ravise pas de dire, ouais, j'aurais dû choisir finalement une ville un peu plus conséquente, voilà, pour pouvoir toucher les gens. Non, il a décrété que c'est Bethléem, la petite ville, parce qu'il lui plaît de choisir les choses qui sont faibles et les choses qui sont petites. Et la Bible cite souvent autour de la naissance de Jésus Bethléem. Hein. Matthieu le cite, Luc le cite, pour montrer que c'est à Bethléem qu'il est né, hein, ici. Et donc, cela montre que Dieu utilise vraiment les choses faibles et les choses moindres du monde. 2 Corinthiens 12, 9, il dit que Dieu dit que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et donc, Dieu se plaît à exercer, à montrer, à manifester sa puissance dans les choses qui sont petites, à travers les choses qui sont petites, une petite ville, un petit peuple, etc. Hein? Et donc, quand on lit l'histoire, une vierge dans la pauvreté, etc., Dieu se plaît à utiliser les choses qui sont faibles pour manifester sa puissance. Sa puissance n'est pas brimée par notre faiblesse. Et nous, il nous semble que quand on est fort, quand on est beaucoup, bien, c'est à ce moment-là qu'on peut faire des choses. Mais Dieu dit non. Et un exemple que j'ai trouvé intéressant en lisant cet été, je crois, dans le livre des Juges, hein, Juges chapitre 7, regardez ce passage dans Juges chapitre 7. Vous connaissez lorsque c'est Gédéon, je pense, il doit choisir des hommes pour la bataille, dans Juges, pardon, chapitre 7. Je ne sais pas si vous auriez choisi des gens comme ça, mais Dieu, il dit à Josué, alors verset 1, 7, verset 1 du livre de Juges, Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source à Harod. Ils devaient faire face à Madian et livrer bataille à Madian. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Trop nombreux, le peuple, ici, hein. Et puis, verset 3, il dit, publie donc ceci, que ceux qui sont craintifs, ceux qui ont peur, qui s'éloignent. Eh bien, il y a eu 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il n'en resta 10 000. 10 000. Et Dieu dit, verset 4, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Okay? Dieu n'a pas dit je te dirai, il n'y va pas parce que, hein, il dit je te dirai, lui oui, lui non. Et puis c'est tout. Et tu fais comme ça. Et regardez la suite. Il dit, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel lui dit, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe un chien. Prends l'eau et puis, hein, vous avez déjà vu un chien? Comment il fait, hein? Eh bien, c'est exactement ça. C'est pas très, hein, on ne boit pas l'eau comme ça. Bon, on peut porter l'eau à la main. Puis, mais là, lécher l'eau avec la langue, c'est ça que ça veut dire. Hein? Il dit, tous ceux qui lapperont l'eau comme un chien, tu les sépareras. Et tous ceux qui se mettront à genoux pour boire, ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche, furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le peuple, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On ne comprend pas quelle est la logique dans, dans ça. Hein? Et je crois qu'il ne faut même pas la chercher. Dieu est simplement en train de dire, voilà, je choisis avec une raison qui est en moi seulement, c'est tout. Hein? Donc, il fait qu'il y en ait qui vont laper l'eau avec, comme un chien, et puis d'autres qui ne vont pas le faire. Il y en a 300, il en choisit 300, et puis il dit qu'il va combattre avec ces 300-là. Et quand on regarde la suite, ce n'est même pas eux qui combattent, c'est les ennemis s'entretuent entre eux-mêmes. Donc, c'est Dieu qui fait tout cela. Et il choisit des moyens qu'on ne comprend pas, des choses faibles, des choses qui paraissent insignifiantes, parce qu'il lui plaît d'agir comme cela. Et il le dit ici, c'est afin que la gloire lui revienne à lui tout seul. À lui tout seul. Donc quand il choisit Bethléem, il le choisit petite bourgade, pour que la gloire revienne à lui. Son Messie naîtrait à Bethléem. Et dernièrement, je voudrais dire ceci aussi, hein. C'est que Bethléem, petite entre les milliers de Judas, elle n'est pas la moindre, car elle joue quand même néanmoins un rôle important dans la reconnaissance du Messie. Hein. Ce que Dieu dit, hein, quand il dit le Messie viendrait de Bethléem, eh bien, pour authentifier le Messie, les gens ont dû chercher est-ce qu'il venait de Bethléem. Il y a toute une discussion qui est très intéressante dans les évangiles. Regardez Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Ici, Jean chapitre 7. Et au verset 40, Jean chapitre 7 et au verset 40, des gens de la foule ayant entendu les paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? C'est intéressant de voir cela. Il y a des gens qui discutent de Jésus-Christ et on pourrait dire le signe qui sert à authentifier pour les gens qui réfléchissent vraiment là, ils se disent, mais attendez, l'Écriture dit qu'il doit venir de Bethléem, près de la descendance de David. Vous voyez, mais juste la petite localité, elle est petite, Bethléem, certes, mais son nom est évoqué lorsqu'il s'agit ici d'authentifier de manière un peu plus claire le Messie. Hein, ici. Et donc, ce sont des gens dans la foule, dans la discussion ici. Certes, ils venaient de Bethléem, certes, ils l'ignoraient, hein, mais cela montre que cette prophétie de 700 ans qui a été faite, d'accord, et là, et que ce petit village de Bethléem dont Dieu a déclaré que c'est de là que naîtrait le Messie, est ce qui est utilisé pour aussi authentifier le Messie. Alors je trouve que c'est intéressant parce que ça montre la grandeur de notre Dieu, son infinie puissance, et la confiance qu'on peut avoir dans tout ce que Dieu dit. Ce qu'il a proclamé, sa main va l'accomplir. Et s'il prend soin ici à accomplir sa prophétie concernant même une petite ville comme celle de Bethléem, combien plus il accomplira tout ce qu'il a promis, hein, de nous donner en Jésus-Christ. Il a promis d'envoyer le Messie, il l'a fait. Et tout ce qui doit venir encore, hein, dans tous les détails, il l'accomplira tel qu'il a dit dans sa parole. Et je crois que c'est un encouragement pour nous de nous attacher à la parole de Dieu. L'Écriture est le moyen nécessaire est vraiment suffisant, qui nous permet de rencontrer précisément Jésus-Christ et le moyen par lequel nous savons que nous serons précisément sauvés. Si nous nous attachons conformément, enfin, vraiment à ce que toute l'Écriture nous enseigne ici. Petite, entre les milliers de Judas, mais pas sans importance, parce que c'était le choix de Dieu. Et ça doit nous rassurer. Même si elle était petite, même si nous vivons des choses qui sont faibles, qui sont petites, qui nous paraissent insignifiantes, si Dieu a choisi de les faire ainsi, eh bien, cela doit nous encourager. Et cela doit nous encourager, d'autant plus que c'est Dieu qui le fait. Il le dit dans sa parole. Donc, je pense que c'est un encouragement pour nous de considérer aussi ces appels, ces petits détails que Matthieu souligne, peut-être, hein, dans son évangile, pour nous montrer à quel point Dieu est, comme il est dit dans Jérémie, hein, comment Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter dans les moindres détails. Voilà, je vais m'arrêter là. Que cela nous encourage, que cela nous aide à ne pas sauter, passer par-dessus, mais prendre le temps de, chaque fois que nous lisons Bethléem, de dire, voilà, c'est la ville de laquelle Dieu a fait cette promesse et il a tenu sa promesse. S'il tient sa promesse à propos d'une ville, combien plus la tiendra-t-il à propos de chacun de ses enfants? Quelques sujets de prière, peut-être ce soir.